Cela fait des semaines que ces sujets sont au centre de l'actualité. Le rôle des médias numériques dans les crises actuelles est crucial. Crise sanitaire avec l'application Tous Anti-Covid, crise économique avec les sites de commerce en ligne et crise de confiance avec la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, des dossiers sur lesquels le gouvernement travaille. Que compte-t-il faire? Quelles sont ses réponses? Pour en parler, Culture Média est heureux de recevoir Cédric Haut. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Emmanuel Macron, le président, doit prendre la parole demain soir. Il devrait annoncer une évolution, probablement un allègement des mesures de confinement. Les commerces pourraient bientôt rouvrir, on va y revenir. Mais avant cela, un mot de l'application Tous Anti-Covid. Dans le JDD hier, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était interrogé sur le traçage des malades. Il n'a pas eu un mot pour l'application. Ne pas en parler alors qu'elle est faite principalement pour tracer les cas positifs, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec?
Je pense que c'est tout le contraire.
Et il n'en parle pas parce que ça marche bien.
Je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Effectivement, ça marche plutôt bien. On est à 9,5 millions de personnes qui aujourd'hui ont activé l'application. Donc c'est un très bon chiffre. Il y a déjà plus de 13 000 personnes qui ont reçu une notification cas contact. Donc qui ont été prévenues, qui ont pu s'isoler, se faire tester. C'est un très bon chiffre. Mais on souhaite aller plus loin. Puisque comme l'INSERM l'a modélisé elle-même, donc l'INSERM, l'Institut de Recherche en Épidémiologie, ce serait très bien qu'on soit à peu près 20% de la population, donc à peu près 15 000 millions de personnes, au moment où on rouvre ou en tout cas on allège les mesures de confinement, parce que ça peut être extrêmement utile pour aider à mieux contrôler la maladie.
Donc c'est un outil sur lequel compte encore le gouvernement pour lutter contre l'épidémie.
Plus que jamais.
On est à quel pourcentage désormais? Vous me l'avez dit, j'ai pas réussi à faire la...
9 millions et demi, ça doit être un peu significativement plus que 10%, donc on doit être à 13-14%.
On en parle parce que la communication du gouvernement autour de l'application n'a pas été optimale. Exemple, c'était le 24 septembre dernier. Jean Castex, le Premier ministre, était l'invité de l'émission politique sur France 2. Il était interrogé par Thomas Soto et Léa Salamé.
Vous téléchargez l'application Stop Covid sur votre téléphone?
Non.
Non?
Pourquoi?
Non. Non, parce que je ne l'ai pas chargé, là, je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait?
Oui, je pousse les Français à le faire, mais je...
Vous êtes honnête,
voilà.
C'est un peu dire...
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Non. Je vais vous dire, parce que, écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez,
oui.
Très honnêtement. Stop Covid, c'est très intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions... fait que je prends plus le métro, je le regrette.
Oui, vous croisez des gens tout le temps.
Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu, parce que l'application...
Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade.
Oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde devrait que l'utilisation
de... Juste une question.
Alors Jean Castex, Premier ministre, n'était pas le seul. Deux autres ministres n'avaient pas téléchargé non plus cette appli. Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le message envoyé était catastrophique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Alors, tous ces ministres, notamment le premier d'entre eux, ont téléchargé l'application Tous Anti-Covid depuis, et Jean Castex a tenu à la relancer lui-même le 22 octobre dernier. Là, vous parliez de la précédente version de...
Oui, qui s'appelait Stop Covid.
De Tous Anti-Covid, qui s'appelait Stop Covid.
Mais là, il y a un ratage à l'allumage.
On a eu quelques difficultés sur la précédente version, effectivement, qui a été lancée le 2 juin jusqu'au 22 octobre. On était à peu près 3 millions de personnes qui l'avaient téléchargée. Depuis le 22 octobre, on est passé à 9 millions et demi.
Donc 9 millions, juste un mot, un détail technique, 9 millions de personnes qui l'ont téléchargée et combien sur ceux-ci l'ont activée?
C'est 9 millions et demi de personnes qui l'ont activé. Donc on ne publie que le chiffre des...
D'accord.
Gens qui l'ont activé. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur l'application vous pouvez le suivre en temps réel. Ça me permet quand même de faire un petit dégagé sur à quoi ça sert cette application. En fait, quand ils ont rouvert dans un restaurant ou dans un petit commerce, ou que vous prenez des transports en commun, que vous faites des réunions, que vous êtes à côté de gens que vous ne connaissez pas et qui peuvent peut-être être contaminés, qui peuvent vous contaminer, si tous les deux vous avez l'application et que la personne après se déclare, vous serez prévenu, ce qui vous permettra de vous isoler pour éviter de contaminer vos proches, mais également d'avoir accès de manière prioritaire, comme tous les cas contacts, à un test. Donc ça permet de gagner du temps, ouais, sur l'épidémie, et ça fait qu'aujourd'hui, il y a 13 000 personnes qui ont reçu une notification, vous êtes cas contact, et qui ont pu s'isoler et se faire tester.
Toute petite question technique, un cas contact de combien de temps? Il suffit de quelques secondes ou il faut 3 minutes en présence de...
Alors, c'est plus de 15 minutes à moins d'un mètre. C'est la définition qui nous a été donnée par les autorités de santé, d'ailleurs sur laquelle il peut y avoir des discussions actuellement pour éventuellement retravailler cette définition.
Un vaccin, je vous apprends rien, devrait arriver dans les mois qui viennent, si ce n'est dans les semaines qui viennent. Si on se fait vacciner, est-ce que cela va apparaître sur l'application?
Alors non, ça n'apparaîtra pas sur l'application, mais le vaccin va mettre du temps à arriver. Donc on est assez optimiste pour qu'il y ait quelque chose, je crois, d'ici le début de l'année prochaine. Mais le temps qu'on vaccine tout le monde, on a besoin de continuer à respecter les gestes barrières. On a besoin d'avoir des outils pour gérer l'épidémie et tous anti-Covid en fait partie.
Alors vous avez vu qu'il y a des gens qui ont peur de se faire vacciner, à tort ou à raison, et la technologie également fait peur. Beaucoup de Français n'ont pas téléchargé tous anti-Covid par peur de voir leurs données utilisées. Est-ce que vous comprenez cette crainte et que leur répondez-vous ?
Alors je la comprends et je leur réponds que la Commission nationale informatique et liberté, qui n'est pas connue pour être particulièrement clémente avec le gouvernement, est venue à plusieurs reprises, la semaine dernière encore, ouvrir le capot de l'application, faire toutes les vérifications, et qu'elle a à chaque fois validé l'application en disant qu'il n'y avait aucun problème et que les données étaient protégées.
Est-ce qu'on n'est pas ici dans une double injonction, puisque je me souviens que ça fonctionne très très bien, ce type d'application, notamment en Corée du Sud, mais c'est un peu intrusif dans la vie privée. Est-ce que la vie privée n'est pas protégée à ce point que c'est assez inopérant?
Alors, ce n'est pas inopérant dans la mesure où, encore une fois, je répète, il y a déjà 13 000 personnes qui ont pu s'isoler grâce à l'application. Donc ce n'est pas du tout négligeable et ça a déjà un impact sanitaire important. Il y a des choix différents qui ont été faits dans des démocraties asiatiques comme la Corée du Sud ou le Japon dans l'équilibre entre vie privée et efficacité.
Ce qu'il faut le dire, ça allait trop, c'était efficace, mais ça allait trop loin.
Ça allait trop loin, ça dépend de votre choix démocratique. Je veux dire, la population de ces pays l'accepte extrêmement bien. Après, pour des raisons de culture différentes, nous, on a fait un choix différent, qui est d'extrêmement protéger les données, parfois au détriment de l'efficacité sanitaire. Aujourd'hui, je pense que le choix était le bon, puisque l'application a été massivement téléchargée, mais on peut encore aller plus loin, et donc j'incite tous ceux qui veulent nous aider à lutter contre l'épidémie, ceux qui veulent nous aider d'ailleurs à rouvrir les petits commerces, à rouvrir demain les bars et les restaurants, à télécharger ou à faire télécharger cette application, parce qu'elle doit nous aider à reprendre une vie sociale tout en contrôlant l'épidémie.
Est-ce que vous avez prévu des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités dans l'appli ? Par exemple, obligé à l'avoir téléchargée pour avoir le droit d'entrer dans un commerce ou des choses pareilles ?
Pas pour les commerces. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, pour entrer dans un restaurant, vous devez flasher un QR code avec l'application ou d'ailleurs laisser vos coordonnées. On travaille à des fonctionnalités similaires pour faciliter la réouverture des restaurants ou des bars.
L'échéance de quand ?
Pour l'instant, on est en discussion avec les autorités sanitaires.
À l'échéance de quelques minutes, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, on a beaucoup de questions sur beaucoup de domaines à lui poser. À tout de suite. En compagnie de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, beaucoup de sujets à aborder avec lui. On va rester pour clore ce dossier tous anti-Covid. C'est une application que les Français peuvent télécharger pour telle et telle raison. Et puis aussi, en France, seulement 77% des gens ont un smartphone. Donc vous savez qu'il y a, si j'ose dire, un continent inatteignable. Est-ce que c'est en partie à cause de cette crainte, de cette peur, que vous avez décidé de lancer la semaine dernière un plan qui a pour but de former les Français au numérique ?
Non, c'est pas spécifiquement à cause de cette peur. On a lancé un plan qui vise à former les Français au numérique parce qu'aujourd'hui, il y a un Français sur six qui n'utilise jamais un ordinateur et un Français sur trois qui manque de compétences numériques. Or, aujourd'hui, on le voit dans la vie de tous les jours, pour faire des démarches administratives, pour vendre un bien, pour garder le contact avec ses proches pendant le confinement, on a besoin de savoir se servir des outils numériques. Et donc, l'électronisme, donc le fait que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise avec le numérique, est un facteur de fracture sociale, de fracture territoriale parfois, qui est terrible. Et on doit faire en sorte de mettre tout le monde à bord, de former les gens au numérique, pour les aider à faire leur démarche quotidienne, mais également pour les aider à mieux comprendre un monde qui est de plus en plus numérique.
En même temps, l'exécutif a sa part de responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi on a arrêté le simple courrier ?» Il y a des choses qui ne peuvent plus se faire par courrier.
La plupart des choses peuvent continuer à se faire par courrier.
Par exemple, on ne peut plus payer ses impôts par un chèque.
Si vous pouvez payer vos impôts par un chèque, notamment quand vous êtes dans des endroits où vous êtes mal raccordé ou si vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur. Donc, il y a toujours une capacité à faire les choses de manière physique, mais c'est vrai que c'est vrai des services publics, c'est vrai aussi de l'ensemble des services privés, hein, des banques, des démarches que vous devez faire tous les jours. Elles sont de plus en plus numériques. Et donc, l'objectif, c'est pas d'aller contre cette transformation. Ça apporte quand même beaucoup de simplicité pour beaucoup de monde, pour faire des démarches le soir ou quand les services sont fermés. Par contre, il faut faire en sorte de former tous ceux qui peuvent l'être.
Comment allez-vous former ces personnes qui peuvent l'être, comme vous dites ?
Alors, ce qu'on a annoncé là, c'est une mesure absolument inédite. On va recruter, former et déployer partout sur le territoire 4000 conseillers numériques, qui sont des personnes qui vont former les gens au numérique partout sur le territoire.
Et donc pour dire les choses, qui vont aller à la rencontre des petites mamies chez elles.
Exactement, qui pourront être soit dans les mairies, soit dans les tiers-lieux, soit dans les centres de médiation sociale, soit dans les centres d'action sociale, partout, dans les médiathèques, partout à l'endroit où il y a des personnes qui ont besoin d'être formées. C'est vrai des personnes âgées, vous l'avez dit, mais c'est pas vrai que des personnes âgées. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui certes savent se servir d'un smartphone, savent faire du WhatsApp, savent aller sur Snapchat, mais dès qu'il s'agit de faire un CV, dès qu'il s'agit de s'actualiser sur Pôle emploi, il n'y a plus personne. Et donc, c'est un vrai problème de société. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette avancée qui est inédite. On va doubler le nombre de personnes qui forment au numérique partout sur le territoire.
Ça me fait sourire parce que vous voulez dire que les digital natives, c'était une légende, c'était juste un mot.
Mais il n'y a pas de digital native. On n'est pas avec un téléphone portable dans la main. Et ça n'a rien à voir de savoir se servir de Facebook, de Snapchat ou d'Instagram et de faire des démarches administratives ou de devoir s'actualiser sur Pôle emploi. Donc, on a besoin de former tout le monde, les personnes âgées. Mais pas que.
Il y aura un petit retard à l'allumage parce qu'il y a encore les déplacements et les réunions qui sont limités à cause du confinement. Quand est-ce que vous allez être en pleine capacité ?
Alors, de toute façon, on veut former des gens qui sont de véritables professionnels de la médiation numérique, donc ça va mettre 2 ou 3 mois pour les former, mais on espère qu'ils arriveront sur le terrain au premier trimestre de l'année prochaine.
Alors, votre plan a également pour objectif de lutter contre la diffusion en ligne de fausses nouvelles, de fake news, de faribole, comme on dit en bon français, contre celle des discours de haine également. En quoi votre plan va-t-il aider à les combattre ?
Alors, il y a un texte très important qui doit être présenté par l'Union européenne début décembre, qui doit permettre de fixer des obligations de modération aux grandes plateformes, donc aux grands réseaux sociaux.
Aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on le dit. Alors, qu'est-ce que ce plan aura de différent des plans précédents ? J'ai l'impression que tous les 6 mois, j'entends ça.
Alors, il y avait déjà ça dans ce qui s'appelait la loi Avia auparavant, mais qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, disons. Et donc là, il y a un règlement au niveau européen qui doit, faire la transparence sur ce que font les grands réseaux sociaux. Comment marchent leurs algorithmes, combien de modérateurs ils ont en langue française. Aujourd'hui, en tant que secrétaire d'État au numérique, je ne sais pas combien de gens chez Twitter modèrent les contenus en langue française et je ne peux pas vérifier ce qu'ils me disent. C'est-à-dire s'ils me disent j'ai 2000, 3000 personnes qui modèrent, je ne peux pas le vérifier. Donc il faut qu'on fasse la transparence et qu'on puisse vérifier. Et par ailleurs, si on estime que c'est pas au niveau, à la fois dans la lutte contre la haine en ligne ou contre la désinformation, on doit pouvoir les contraindre à mettre plus de modérateurs, à être plus efficaces, parce qu'ils sont extrêmement importants aujourd'hui dans la manière dont se diffuse l'information et dans ce phénomène que vous évoquez de désinformation, mais également dans les phénomènes de haine en ligne qu'on a connus dernièrement.
Et est-ce que vous pensez que ces grands groupes vont réussir, ou plutôt vous allez réussir à les faire plier ?
Il y a quelques années, l'Europe a passé ce qu'on appelle le Règlement général de protection des données, qui est le règlement le plus protecteur aujourd'hui des données dans le monde. Ouais. Et ils s'y sont pliés parce qu'il y avait des amendes extrêmement importantes à la clé. On veut faire exactement la même chose dans le domaine de la modération.
Et d'autres pays ont recopié justement ce RGPD.
Exactement, c'était ensuite adopté par le Japon, par la Californie, par un certain nombre d'autres pays. L'Europe, comme elle sait le faire quand elle est unie, a fixé le cadre et a été pionnière dans la protection des données des citoyens européens et du monde. On veut faire la même chose dans la modération.
Est-ce que la France est en retard dans le domaine du numérique? J'entendais dire que je crois que les chiffres, c'est 60 ou 70% des commerçants ont un site internet en Allemagne, en Italie et seulement 30% en France.
Alors les entreprises du numérique françaises sont extrêmement performantes. On est aujourd'hui le premier pays en termes d'entreprises en numérique, dans les start-up, en Europe. On vient de passer devant les Allemands. Il y a énormément d'innovation, énormément d'entrepreneuriat. Là où on est un peu en retard, effectivement, c'est sur la numérisation des TPE-PME, particulièrement des commerces. On doit être le 16e ou le 17e pays dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'avec Alain Griset et Bruno Le Maire, nous avons annoncé la semaine dernière un plan extrêmement important pour accompagner la numérisation des petits commerces, à la fois en aidant les collectivités territoriales qui veulent créer une place de marché locale, un petit Amazon local, ça marche très bien par exemple à Angers, ou alors en finançant un petit commerce qui a été fermé administrativement pour l'aider à se digitaliser en lui accordant un chèque de 500 euros. Ce qu'on doit faire, c'est réussir à faire les Allemands ou les Italiens. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 30% des petits commerces français qui vendent en ligne, il y a 72% des petits commerces allemands qui vendent en ligne. On doit accélérer parce que cette question du e-commerce, elle existait avant le confinement, elle va continuer après le confinement, et la meilleure manière pour les petits commerces de résister aux e-commerçants, à Amazon, etc. Mais c'est bien de vendre en ligne eux aussi.
En disant on ne peut pas lutter contre Amazon.
Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, la France est le pays où les e-commerçants résistent le mieux à Amazon. La part de marché d'Amazon en France, c'est 20%. En Europe, par exemple en Allemagne, c'est 40% sa part de marché. C'est bien que quand on est performant, quand on arrive à avoir cette relation client, quand on vend en ligne en même temps qu'on vend dans son petit commerce, on peut résister à cette tendance du e-commerce, mais pour cela, il faut aussi vendre en ligne.
Oui, vous comprenez très bien la rancœur du petit commerçant, c'est qu'il dit Amazon est ouvert et nous, on est contraints à être fermés.
C'est vrai, mais ça, c'est pas la faute d'Amazon. Je veux dire, il y a des décisions qui sont liées à la crise sanitaire, qui sont de faire en sorte qu'il n'y ait pas de commerce physique ouvert, parce que ça augmente les interactions sociales. Maintenant, il est normal que ceux qui vendent en ligne puissent continuer à vendre en ligne. Et donc, la solution, c'est de faire en sorte que les petits commerces aussi puissent vendre en ligne.
Autre dossier sur votre bureau, le déploiement d'une technologie qui fait débat, c'est peut le dire, la 5G, elle a été lancée officiellement vendredi dernier à Nice avec SFR. Orange devrait suivre cette semaine à Marseille, vous confirmez ?
Je laisse les annonces aux opérateurs privés, mais on devrait voir effectivement l'ensemble des quatre grands opérateurs ouvrir la 5G d'ici début décembre.
Alors, il y a beaucoup de Français qui se méfient de la 5G, et pas seulement des complotistes, pour des raisons sanitaires, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, notamment des maires de grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux. Est-ce que cette méfiance, voire cette opposition, vont ralentir le déploiement de la 5G ?
Alors, je ne pense pas. D'abord parce que le déploiement de la 5G n'est pas à la main des maires, mais à la main de l'État. Et le deuxième élément, c'est que je vois...
Le maire n'a pas le droit de refuser l'installation d'une antenne sur son territoire.
C'est l'État qui décide cela, c'est le Conseil d'État qui en a jugé il y a quelques années et qui a toujours été constant dans ce jugement. Le deuxième élément, c'est que je vois beaucoup de calculs politiques dans ce positionnement, ne serait-ce que parce que les maires des grandes villes savent pertinemment une chose, c'est que d'ici un ou deux ans, les réseaux et les bandes de fréquences 4G vont saturer. Et donc, en étant contre la 5G, ils sont mécaniquement pour laisser saturer. Parce qu'il y a, deux ou trois options simples, c'est soit vous laissez saturer, parce que compte tenu de l'augmentation du débit 4G ou 5G, ça va saturer, soit vous remettez des antennes 4G, soit vous remettez des antennes 5G qui consomment 20 fois moins d'électricité que les antennes 4G. Donc le vrai choix environnemental, c'est de mettre des antennes 5G.
Et juste un mot, je pense notamment au maire de Bordeaux, le maire écolo de Bordeaux, quand il dit qu'il demande un moratoire pour l'installation de la 5G dans sa ville, si vous dites que c'est pas lui qui est responsable et qui a le final cut en matière d'installation, c'est une posture politique.
Mais c'est d'autant plus une posture politique qu'il ne l'a même pas fait voter dans son conseil municipal.
D'un autre côté, votre plan de lutte pour l'inclusion numérique, et de l'autre côté, le déploiement de la 5G, la nouvelle norme des communications mobiles, on voit que vous voulez réduire les fractures d'un côté, de l'autre, les creuser, avec une technologie qui va demander des nouveaux équipements. Est-ce que c'est pas contradictoire ?
Pas du tout, justement. On doit faire en sorte d'être au bon niveau technologique parce que c'est dans la concurrence internationale, parce que l'ensemble des pays qui relancent leur économie le font sur la compétition technologique. Et d'ailleurs, les Français adoptent massivement ces outils technologiques. Mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser de côté toute une partie de la population. Et donc, on investit dans la compétitivité dans notre entreprise, dans nos emplois de demain. Et en même temps, on fait en sorte que tout le monde reste à bord en formant tous les Français au numérique.
Dernier sujet qui vous concerne évidemment, parce que ça se fait avec un portable, entre autres, et sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur doit recevoir les syndicats et les organisations de journalistes aujourd'hui, des journalistes inquiets de la loi dite de sécurité globale, notamment son article 24, loi qui doit être adoptée en première lecture à l'Assemblée demain. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude des journalistes ?
Je comprends cette inquiétude, j'ai assez peu de temps pour répondre, donc je serai assez elliptique. Bon, je pense que la disposition est passée, qu'il y a un certain nombre de mesures de rééquilibrage qui ont été prises. J'espère qu'elle sera à la fois efficace et qu'on évitera les effets indésirables. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une discussion entre tous les gens de bonne volonté, l'État, les journalistes, la société civile, sur cette question des fausses informations, sur ce que change le numérique à la diffusion de l'information et à l'utilisation.
La vraie question qui posait problème, c'était pas la diffusion ou non de fausses nouvelles, c'était le droit de filmer des policiers et le droit de les mettre sur les réseaux sociaux.
Parce que le numérique a complètement changé la manière dont se diffusait l'information. Et donc, on allait là prendre cette disposition pour éviter l'utilisation maligne par certaines personnes qui filment les policiers pour ensuite diffuser leur visage, leurs coordonnées sur Internet pour créer des vendettas. Et donc, je comprends l'émotion qui est liée à la prise de la disposition, mais il faut bien gérer cette nouvelle utilisation par des personnes qui pervertissent le droit et le numérique que ces personnes font d'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux. On doit le gérer collectivement, c'est vrai dans le cas qu'on évoque, c'est vrai dans le cas des fake news, c'est vrai dans le cas d'agissements d'entreprises de simili médias comme RT et Spoutnik financées par l'étranger et qui viennent perturber notre démocratie, c'est vrai avec Hold Up, le documentaire qui a fait polémique. On a un problème, c'est qu'on a des lois et des dispositions et des institutions qui ont été créées il y a un siècle et qui aujourd'hui sont mises sous tension par la diffusion du numérique, par les réseaux sociaux, par Internet. Et donc, on doit réfléchir collectivement à mettre à jour nos mesures prophylactiques et nos institutions. Et au-delà de la disposition qui fait débat, on doit pouvoir en discuter tous ensemble.
Prophylactique, je retiens ce mot, il s'applique à beaucoup de choses. Merci beaucoup Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Merci d'avoir été ce matin en direct dans Culture Média. Dans un instant...